Radio CNDP, bonjour. Aujourd'hui, mercredi, vers 17h40, le magazine de l'école. Un mot étranger dans la langue, algodon, un mot espagnol. Et tout de suite, une rencontre littéraire avec Marie-Pierre et Michel Mathieu-Colla, anatomie d'un best-seller, Le Club des Cinq de Henry Blayton. Bruno Pisson vous invite à suivre Lire aujourd'hui.
Marie-Pierre et Michel Mathieu-Colla, bonjour. Vous êtes bibliothécaire, maître assistant à l'université, et vous consacrez un livre important à un sujet qui peut paraître un petit peu futile, le Club des Cinq. Et votre ouvrage, le dossier Club des Cinq, aux éditions Magnard, essaie de dégager, sur un ton tout à fait universitaire, les logiques internes de cette œuvre. Qu'est-ce qui vous a conduit à un ouvrage pareil?
Oui, alors c'est des travaux de l'auteur. D'abord, Henry Blayton a vécu de 1897 à 1968 et manifestait dès son enfance un goût connaître pour l'écriture. Je rappellerai surtout le fait qu'elle a eu une expérience d'enseignante, l'exercée pendant quelques années comme institutrice. Elle était formée aux écoles de Montessori et de Trouble. Et cette expérience pédagogique permet de comprendre d'abord la présence dans sa production non seulement d'ouvrages de fiction, le Club des Cinq, les mystères, les livres, etc., enfin toutes les séries qu'on connaît en France, mais en même temps des ouvrages pédagogiques, études sur la nature, sur les animaux, sur le cirque, bref, ce que nous appelons des documentaires. En même temps, cette expérience pédagogique permet de comprendre le sens des enfants, l'expérience directe des enfants qu'elle avait, et en conséquence, mieux percevoir peut-être une lecture scientifique.
Alors vous nous décrivez un auteur tout à fait inattendu, un auteur prolixe, certes, mais aussi un auteur quasiment sérieux, voire didactique. Qu'est-ce qui vous a conduit à privilégier le Club des Cinq?
C'est la série qui a eu le plus de succès auprès des enfants, tout d'abord dans son pays, ensuite en Europe plus particulièrement, et en France. Donc c'est la série la plus importante, j'ai dire. Elle comprend 21 titres, Hachette a commencé à la publier en 1955, et ce succès a été si important. Le succès de la série a été si important qu'on l'a adapté à la radio, à la télévision. On l'a trouvé sous forme de disques et de cassettes. Mais on a été plus loin. Quand Henry Blayton est mort, Hachette a décidé de faire une nouvelle série reprenant les personnages de l'ancienne, mais sous une nouvelle forme. C'est la série imagée, écrite par Claude Vollier et qui se présente sous une forme originale. On peut lire l'histoire indépendamment, soit sur la page de gauche en lisant les textes, soit sur la page de droite en suivant les illustrations. Elle a atteint maintenant 22 titres, c'est-à-dire plus que l'ancienne série, mais c'est un sous-produit.
Le phénomène d'ailleurs ne s'arrête pas là, puisque cette nouvelle série donne lieu elle-même depuis 2-3 ans à des adaptations sous forme de bande dessinée. Donc le Club des Cinq est véritablement un phénomène inépuisable. Je voudrais néanmoins insister peut-être lourdement sur la différence qui sépare l'ancienne série, la série d'Henry Blayton, et la série imagée de Claude Vollier, parce que le lecteur peut facilement les confondre dans la présentation. En fait, la série originale est de meilleure qualité que la nouvelle série. On disait que c'était un sous-produit tout à l'heure. Elle est beaucoup plus pauvre, elle est beaucoup plus schématique. Pour donner une seule indication, les premiers titres d'Henry Blayton comportaient 200 à 250 pages, alors que les dernières publications en comportent 75. Vous voyez donc c'est de déperdition, de dégradation qui explique que nous nous limiterons essentiellement à l'œuvre d'Henry Blayton en excluant de notre propos la série imagée de Claude Vollier.
Alors même en vous consacrant au Club des Cinq original, vous êtes quand même dans une situation particulière. Vous donnez un certain nombre d'extraits de critiques. Les critiques sont très dures pour cette série. Schématisme, manichéisme. On a partout une vision très négative de la part des critiques de livres pour enfants et des bibliothécaires. Quelle position avez-vous par rapport à l'ensemble des critiques qui sont parues?
Je crois qu'il faut sortir précisément du manichéisme. Non seulement dénoncer le manichéisme qui peut être présent dénoncer l'auteur, mais dénoncer le manichéisme de la critique. Les choses ne sont pas aussi simples. Il faut sortir des jugements monolithiques. Je croyais bien que pour nous, il aurait été beaucoup plus facile de faire soit un panégyrique, soit au contraire un pamphlet.
Alors voilà, 50 millions d'exemplaires vendus. Il faut quand même se poser la question, malgré la condamnation de la majorité des critiques, quelles sont les raisons? Il doit bien y avoir, dans la structure de ces livres, des raisons essentielles qui font qu'ils plaisent aux enfants.
En premier lieu, on peut s'apercevoir que c'est le phénomène de la série qui joue. Les enfants aiment retrouver les mêmes personnages dans des intrigues similaires. Il y a aussi la facilité du texte. Ils sont à un âge où ils sont en train d'apprendre à lire. C'est sûr que cet élément-là est important. Maintenant, il est vrai qu'il y a des raisons à la fois psychologiques et narratives qui jouent en faveur de ce succès.
Oui, alors les raisons narratives, je les résumerai très simplement. Les intrigues, en général, sont construites. Le genre oscille entre le roman d'aventure et le roman policier. On effectue d'ailleurs un dosage assez original, mais tout à fait efficace. En même temps, il faut tenir compte de la présence du décor.
Le décor. Dans le fond, c'est un élément essentiel parce qu'on a une telle série que normalement on devrait pouvoir se promener dans des lieux très différents. Avec le petit problème quand même, c'est que ce ne sont plus les décors d'aujourd'hui puisque la série est assez ancienne.
En fait, Amy Dainton reprend les archétypes de la littérature traditionnelle, c'est-à-dire les villes, les châteaux, les étangs, les endroits isolés. Pour vivre leur aventure, les enfants s'éloignent du monde connu, partent isolés. Et ce qui revient le plus, pourrait-on dire, c'est le monde du souterrain. Dans ce monde obscur, ils vont découvrir l'objet de la quête, que ce soit un trésor ou la personne qu'ils recherchent, ou même la vérité. Et ils sortent transfigurés. Pour devenir un héros, il faut passer par le souterrain.
Il y a le décor, mais à l'intérieur de celui-ci, il y a aussi les personnages. Quel rôle jouent les personnages sur la fascination qu'ont les gens?
D'abord, ils sont libres de toute contrainte. L'aventure se passe pendant les vacances. C'est très important. Ensuite, ils sont plus forts que les adultes. Les critiques ont souvent critiqué ce point parce qu'il y avait une valorisation excessive de l'enfant. Mais je pense que pour le jeune lecteur, c'était très important au contraire, une sorte de compensation par rapport à sa vie réelle, à sa vie quotidienne. On a dit aussi que les parents étaient absents. Ce qui est faux. Ils encadrent les récits. Sont au début et à la fin. Ils ne jouent pas un grand rôle, les enfants les dominent, mais néanmoins, à la fin du récit, les enfants ont besoin de la parole des parents pour être reconnus. C'est vers eux qu'ils se tournent pour rapporter l'objet de la quête. Et le cas de Claude, une fille de garçon, l'héroïne principale de Claude V, est très étonnant, puisqu'à la fin des récits, elle attend de son père qu'il lui dise « Je suis fière de toi, mon garçon ».
La fille garçon, c'est curieux, ça comme personnage.
Oui, c'est quelque chose de tout à fait particulier dans Claude V, ce qui démarque en quelque sorte le personnage de Claude et de tous les autres personnages de l'univers.
C'est aussi essentiel que le rapport privilégié qu'elle a avec son chien. Il y a là un couple assez particulier. Le chien de Claude, Dagobert, lui apporte l'indépendance dont elle rêve. Il faut savoir qu'elle veut absolument être un garçon et qu'il lui apporte cette liberté fondamentale.
Il y a d'autres personnages autour de cette petite fille, jeune fille, très indépendante.
Oui, alors précisément, l'une des caractéristiques du Club des Cinq, c'est la différenciation et la complémentarité des personnages. Et ce qui facilite d'ailleurs l'identification du lecteur. Quel que soit, pour répondre à la psychologie du lecteur, il ne faut pas le personnage auquel l'accrocher ses fantasmes, puisque vous avez ce petit garçon, puisque vous avez le personnage de François qui lui est plus autoritaire, c'est le Lady Group, puisque vous avez Nick qui est bon vivant et marginal, puisque vous avez Ali qui est conformiste, qui est la petite sage. Mais vous voyez donc l'habité de l'auteur dans cette pluralité.
Mais il y a peut-être plus que les individus, ils forment un groupe, c'est le Club des Cinq.
Oui, c'est le Club des Cinq, et d'ailleurs le terme même de club est une originalité du traducteur, puisque en anglais, ça ne se présentait pas exactement de cette manière. Enfin, le club comporte deux aspects. là, une fonction interne, une fonction externe. Fonction interne, c'est la liaison, la solidarité des éléments du groupe. Et on pourrait dire en ce sens qu'il fonctionne comme un modèle de socialisation. C'est très net dans le cas de Claude. Claude est une fille unie, obsédée, on l'a dit, par son chien, mais qui va véritablement se transformer, se métamorphoser au contact des autres. Donc, un élément d'ouverture. Mais en même temps, le club, par rapport à l'extérieur, fonctionne comme un système fermé et inexcusé.
Tout à l'heure, vous nous avez dit que le club, c'était aussi l'exclusion.
Alors là, ce que vous posez, c'est le problème de l'idéologie sous-jacente. Disons, pour être bref, que elle est caractérisée par un conformisme, par une mise en avant des valeurs bourgeoises traditionnelles, bien entendu sécurisantes pour les enfants. On pourrait extraire du club des cinq une sorte de table de commandement où figurerait elle-même le courage, le sens de la parole des mères, l'honnêteté, la nourriture, enfin la propreté, très important la propreté. Mais tout ceci est ambigu parce que c'est affecté d'une indéfectible bonne conscience et je dirais surtout d'un sentiment de supériorité par rapport aux autres, un sentiment de supériorité qui n'apparaît pas seulement par rapport aux adultes, par rapport aux méchants, à l'ennemi, l'anithéisme dont on parlait, mais supériorité s'expliquera peut-être par rapport aux enfants de leur âge.
Oui, ce qui est beaucoup plus gênant, effectivement, c'est le rapport aux autres. On les utilise. Ils ne sont pas de la même société que vous, et on s'en sert. Un des cas les plus intéressants est dans le collège des 5 et des gitans, où le petit garçon qui travaille comme professeur est utilisé par les enfants pour tromper l'ennemi. Et François dit comme tel, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire ce soir? On va l'inviter à dîner, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec lui? Et il est soulagé à l'idée que la cuisinière trouve une solution, on va jouer aux cartes, mais ça n'aura pas à parler avec lui. Et le petit garçon rentre chez lui et dit quelle merveilleuse soirée j'ai passée. Les enfants sont toujours mis en avant comme étant supérieurs aux autres, et les autres sont tout à fait admiratifs par rapport à eux. Mais il y a plus grave. Il y a des enfants demeurés dont on se sert et qu'on apprivoise aussi, comme la sauvageonne dans le club de soeurs au sport d'hiver, on utilise avec un discours, sur la faire parler, on dit ça à lui.
Alors le club des cinq, dans le fond, bonne conscience bourgeoise, un léger parfum d'empire anglais, sûr de lui-même, avec un petit peu de désuétude. Est-ce que tout ça représente vraiment une nourriture intellectuelle pour un enfant d'aujourd'hui?
Non, pas exactement. Mais de là à exclure tous les titres de la série, je pense que ce serait dommage. Il faut sans doute en retenir quelques-uns.
On ne va quand même pas quitter le club des cinq. Il y a 21 volumes. Est-ce qu'on pourrait quand même en choisir quelques-uns et pouvoir les conseiller?
Je comprends bien que vous voulez notre sélection. Je penserais, pour ce qui concerne l'aventure, au tout premier titre de la série, le Club des Cinq et le Trésor de l'île, histoire de course au trésor. Je penserais également pour le thème plus particulier de la Robinsonade à Club des Cinq et contre-attaque.
Au niveau de l'action, de l'affrontement du danger, on pourrait quand même citer le Club des Cinq en péril. Et puis, l'énigme, ce serait le Club des Cinq et le Club des Cinq en randonnée.
Sans oublier, bien entendu, pour le décor, le monde des souterrains, pour également la présence tout à fait particulière de l'animal, le Club des Cinq en vacances et le Club des Cinq joue égal.
Marie-Pierre et Michel Mathieu Collat, je vous remercie. Et je rappelle le titre de votre livre, le dossier Club des Cinq, aux éditions Magnard, l'école.
Bruno Pisson a rencontré pour vous Marie-Pierre et Michel Mathieu Collat pour une anatomie d'un best-seller, le Club des Cinq. C'était Lire aujourd'hui. Lire aujourd'hui, une production de Radio CNDP, la radio qui sait lire entre les lignes.
CNDP.
Algodon.